Bonjour. Donc je vais vous éteindre la lumière peut-être. Oui, juste. Ça part tout de suite. Donc, bonjour, je vais vous présenter des recherches actuelles en traitement du langage, donc en anglais Natural Language Processing. Et c'est un domaine assez vaste, donc je vais me concentrer sur quelques domaines là-dedans, donc notamment la traduction automatique. Donc le plan de l'exposé, donc, je vais donner quelques introductions, qu'est-ce qu'on fait en traitement du langage, et après me concentrer sur la traduction automatique, et je vais tracer un peu l'histoire, donc, parce que ça a commencé très tôt. Ensuite, je présenterai en fait tous les chemins sur une quinzaine d'années qui a mené du premier modèle de langage neuronal jusqu'au système de traduction entièrement neuronale. Donc, qu'est-ce qu'est le traitement du langage ? Donc, je pense la communication dans un langage naturel. Donc, c'est un ancien rêve un peu de l'humanité. Et cette communication peut se faire dans plusieurs façons. Donc, souvent, les premiers ordinateurs, je pense, ont communiqué avec des mots-clés ou peut-être un certain langage spécialisé qui pratique pour l'ordinateur, mais pas pour nous. Donc, ça sera beaucoup plus pratique si on peut poser ou interagir avec des textes complètement libres. Après, évidemment, d'autres moyens de la communication, c'est la parole, aussi bien en entrée qu'en sortie, ce qui était le sujet il y a quelques semaines ici. Ça peut être la reconnaissance de l'écriture aussi, ou la vision. Donc ici, dans cet exposé, là, je vais me concentrer sur tout ce qui est texte. Après, quels sont les traitements sur les mots qu'on pourrait appliquer ? Donc, il y a toutes sortes d'annotations des mots. Ça peut être ce qu'on appelle en anglais des post-tagging, donc regarder où les sujets, les verbes et tout ça, éventuellement faire une structure un peu plus compliquée, une graphe qui met en relation les dépendances dans une phrase. Après, ce qui est utilisé dans pas mal d'applications, ce qu'on appelle un modèle langage. En fait, c'est un modèle qui nous dit est-ce qu'une suite de mots est probable, est-ce qu'il est bien formé ou pas. Après, les applications un peu plus complètes, comme la reconnaissance automatique de la parole, la traduction automatique, au système, Yann a mentionné un petit peu des questions-réponses, on pose une question, on répond. Donc là, il y a l'aspect qu'il faut chercher une réponse dans une base donnée ou le système de dialogue complet. Donc, je vais me concentrer sur des aspects. Donc, tout ce qui est commun là-dedans, on va traiter des mots. Donc, il y a des relations entre les mots, on va éventuellement associer des catégories à des mots, estimer des densités, des probabilités sur une séquence ou des mots tout seuls. Donc, quelle était la technique classique, disons, pour gérer ça ? Donc, on a choisi une sorte de vocabulaire, donc des listes finies de mots connus par le système. Après, chaque mot était un peu représenté par un index dans la liste des mots connus. Ou, alternativement, on peut utiliser un encodage avec un gros vecteur. Ça marchait ? Voilà, c'est pas le bon bouton. Donc, on fait un vecteur où on met un ou mot correspondant, c'est repartout ailleurs. Ça, c'est plus convenable pour une entrée en réseau neural. C'est pas si mauvais que ça, mais il y a un grand problème parce qu'en fait, il n'y a pas de relation entre les mots. Donc, en fait, si vous regardez ça un petit peu dans un cube, ce qui était déjà dit la dernière fois, donc si vous avez une représentation binaire, vous avez les mots sur chaque coin du cube. Donc, bien entendu, normalement, ce n'est pas une dimension 3, mais une dimension plutôt 50 ou 100 000. Donc, c'est un peu plus difficile à visualiser. Donc, on regarde les petits exemples ici. Et si vous regardez les mots comme la maison et le bâtiment, donc a priori, ce sont des mots probablement dans beaucoup d'applications qui sont des vrais proches, mais en fait, chacun est aussi loin d'une pomme, par exemple, qu'entre eux. Donc l'idée serait, en fait, de projeter les mots au lieu d'être alignés avec les axes, n'importe où dans cet espace, de grande dimension, pour que les mots qui devraient avoir une fonction similaire soient proches et loin des autres. Donc ici, vous avez tout ce qui tourne autour d'un bâtiment, ici, par exemple, les fruits. Donc, bien entendu, cette notion de similarité dépend un peu de l'application. Donc, si vous faites une application de traitement du langage, de modèle langage, vous voulez probablement mettre des mots ensemble qui ont la même fonction pour les mots qui suivent. Par contre, si vous faites une traduction, on serait peut-être tenté de mettre des mots ensemble qui se traduisent de la même façon. Et si c'est dialogue, ça peut être encore autre chose. Donc moi, personnellement, je ne pense pas trop qu'il y ait une sorte... donc c'est déjà difficile à traduire l'embedding, donc je préfère garder le mot en français. Donc, est-ce qu'il y a un embedding universel des mots dans cet espace-là qui marche pour toutes les applications ? Moi, je ne crois pas, donc je pense qu'il faut l'adapter à chacune. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'applications pour apprendre ces embeddings-là. Donc ça n'a pas forcément commencé avec le réseau de neurones, il y a des techniques un peu plus anciennes comme le LSI et tout ça. Peut-être le plus connu, donc, c'est le Descartes dans un modèle de langage, donc c'était proposé par Joshua Bentley en 2001 et qui est devenu dans la suite très populaire, ou une variante un peu plus efficace qu'on appelle Word2Vec qui a été proposée à Mikulov. Donc il s'est démontré, c'est quand même normalement idéal d'apprendre ces embeddings des mots dans le cadre de l'application. Donc si vous faites un modèle de langage, une traduction ou un système dialogue, les apprendre là, non. Éventuellement, on peut utiliser une technique de ce type-là pour initialiser ces embeddings-là, mais à la fin, c'est quand même mieux de les optimiser pour la tâche. Donc avant de montrer des réseaux de neurones qui peuvent résoudre ça, une petite introduction à la traduction automatique. Donc il y a une petite légende, on parle souvent de la tour de Babel dans les cas de la traduction. Donc en fait, pourquoi? Parce qu'il y a une légende qui avait un roi, il me semble, Nemrod, qui s'appela, qui voulait construire une tour très haute qui pouvait atteindre le ciel. Donc ça ne plaisait pas trop aux dieux. Donc ils ont répandu plein de langues différentes parmi les travailleurs. Ils n'arrivaient plus à se comprendre. Donc ils ont arrêté la construction de la tour. Ils sont partis un peu partout sur la Terre. Donc c'est une légende. Mais pour vous montrer un peu l'histoire de la traduction automatique, je vais vous montrer une petite vidéo. Donc... J'espère que ça passera bien ici. On l'avait testé tout à l'heure.
The Thinking Machine.
C'est une vidéo qui date des années 50.
Hello again. With me tonight is Professor Jerome B. Wiesner, Director of the Research Laboratory of Electronics at MIT. Dr. Wiesner, what really worries me today is what's going to happen to us if machines can think, and what interests me specifically is, can they?
Well, that's a very hard question to answer. If you'd asked me that question just a few years ago, I'd have said it was very far-fetched. And today, I just have to admit, I don't really know. I suspect if you come back in 4 or 5 years, I'll say, sure, they really do think.
Well, if you're confused, Doctor, how do you think I feel?
We're just really beginning to understand the capabilities of the computers.
I've got some film to illustrate this point, which I think will amaze you.
That man isn't playing checkers against a computer, is he?
Sure, and it plays pretty well.
Now, which colors?
While most computer scientists saw it as a mere number cruncher, a small group thought that the digital computer had a much grander destiny. Being a general-purpose machine, it could be programmed to do things which in humans require intelligence, play games like checkers and chess, and solve brain teasers.
Let's see what it's turning out.
The field became known as artificial intelligence.
Can machines really think? Even the scientists argue that one.
I'm convinced that machines can and will think. I don't mean that machines will behave like men. I don't think for a very long time we're going to have a difficult problem distinguishing a man from a robot. And I don't think my daughter will ever marry a computer. But I think that computers will be doing the things that men do when we say they're thinking. I'm convinced that machines can and will think in our lifetime.
I confidently expect that within a matter of 10 or 15 years, something will emerge from the laboratories which is not too far from the robot of science fiction fame.
They hadn't reckoned with ambiguity when they set out to use computers to translate languages.
A $500,000 supercalculator, most versatile electronic brain known, translates Russian into English. Instead of mathematical wizardry, a sentence in Russian is to be fed in...
One of the first non-numerical applications of computers, it was hyped as the solution to the Cold War obsession of keeping tabs on what the Russians were doing. Claims were made that the computer would replace most human translators.
At present, of course, you're just in the experimental stage. When you go in for full-scale production, what will the capacity be?
We should be able to do about, with a modern commercial computer, about 1 to 2 million words an hour. And this will be quite an adequate speed to cope with the whole output of the Soviet Union in just a few hours computer time a week.
When do you hope to be able to achieve this speed?
If our experiments go well, then perhaps within 5 years or so.
And finally, Mr. McDaniel, does this mean the end of human translators?
So yes, for translators of scientific and technical material, but as regards poetry and novels, no, I don't think we'll ever replace the translators of that type of material.
Mr. McDaniel, thank you very much.
Donc je pense qu'il avait été un peu trop optimiste. Donc, je ne sais pas si c'était bien passé. Donc il avait promis que la traduction automatique sera résolue dans un temps de 5 à 10 ans avec les ordinateurs modernes de la période, qui sont largement moins performants que votre téléphone portable aujourd'hui. Donc on sait que ça ne marchait pas. Donc en fait, ça date des années 1954, il y avait un premier système d'IBM qui était construit pour traduire du russe vers l'anglais. Donc c'était en pleine période de la guerre froide, donc ça servait à l'espionnage. Bon, il y avait beaucoup d'enthousiasme après cette annonce et il y a beaucoup de projets de recherche, mais bon, quelques années plus tard, on s'est rendu compte qu'on était un peu trop optimiste. Donc, dans les années 1966, il y avait un rapport bien connu qu'on appelle ALPAC qui résultait pratiquement qu'on a arrêté la recherche parce qu'on a trop promis, donc tout s'est arrêté. Donc, c'est un petit peu pour cette raison aujourd'hui aussi qu'on préfère être un peu prudent. Donc, dernièrement, il y a eu pas mal d'annonces que, bon, finalement, l'intelligence artificielle est résolue. Donc, il faut être un peu prudent. Donc, à la période, il n'y avait pas du tout des approches statistiques. C'était basé entièrement sur des règles. Donc, il y a différents niveaux. Donc, si on parle de la langue source, on peut refaire ce qu'on appelle la direction directe. Donc, on essaie directement à produire une phrase cible ou on applique une première analyse qui peut être syntactique. Dans ce cas-là, le transfert devient un peu plus simple. On pousse un peu plus loin. Enfin, on a peut-être une analyse sémantique. Dans ce cas-là, le transfert est éventuellement plus simple aussi, mais il y a une période de génération. Ou, au bout de la pyramide, ce qu'on appelle interlingua, en fait, c'est une langue artificielle qui a été créée pour faciliter la traduction parmi plusieurs langues. Parce que le problème de cette approche-là, en fait, ça ne fonctionne pas si mal que ça, mais c'est énormément de travail humain. Parce qu'en fait, c'est les humains, les spécialistes de linguistes, idéalement bilingues, qui mettent au point ces règles-là, pour toutes les exceptions imaginables, et qui optimisent les systèmes. Une fois qu'on s'est mis au point, ça marche très bien. Imaginez, vous voulez faire ça pour toutes les langues européennes, c'est énormément de travail. Donc, il y a des approches statistiques qui ont apparu dans les années 90 à peu près. On peut se demander, si on gère des mots, où est-ce qu'on peut faire des statistiques. En fait, le point d'entrée, c'est un petit peu qu'il faut faire des décisions aussi. Donc, quand vous faites une traduction, il faut choisir les meilleurs mots, il y a plusieurs options. Est-ce qu'on utilise éventuellement des expressions particulières? Quel est l'ordre optimal des mots? En général, ce ne sont pas des décisions binaires, c'est oui ou non, mais on a c'est un peu flou. Donc, effectivement, ce genre de choses, on gère ça le mieux avec des statistiques. Donc, il y a les équations des bases de la traduction automatique. Donc, imaginons, on veut traduire de la langue source, S, vers une langue cible, T, donc source to target. Chacune a une certaine longueur qui n'est pas nécessairement la même. Donc, on peut tout simplement écrire, on cherche la phrase T qui maximise la probabilité étant donné la phrase source S. Donc là, c'est peut-être pas facile à calculer directement. Donc, on applique la règle Bayes et on décompose ça en deux termes. Donc à la fin, on a cette expression ici. Donc on a un modèle qui met en relation la phrase source et la phrase cible. On appelle ça le modèle de traduction. Ouais, il y a quelque chose qui manque là. Et l'autre modèle, PDT, qui un modèle uniquement, c'est la phrase cible. Donc il n'y a plus la source, on appelle ça un modèle de langage. Donc si vous regardez cette équation-là, et si vous étiez là au cours sur la récurrence de la parole, vous voyez certaines similarités. Donc en fait, ce n'est pas si différent la traduction, de la récurrence de la parole. Donc ici, vous avez cette équation ici. Vous voulez trouver la séquence qui maximise le produit entre ce qu'on appelle le modèle acoustique, qui met en relation l'entrée, le signal, et la suite des mots. Et vous avez aussi un modèle langage sur la sortie. Donc les deux équations se ressemblent un petit peu. Sauf qu'il y a une petite différence, parce que si vous regardez ici cette expression-là, ce n'est pas symétrique. D'un côté, vous avez l'acoustique, l'autre côté, vous avez une séquence de mots. Alors qu'ici, c'est pareil. Donc, il n'aurait pas d'obligation d'inverser ce modèle-là, mais dans les modèles classiques, c'était convenable de décomposer le problème en deux. Un côté, produire une phrase qui a une relation avec l'entrée, et qui n'est pas bien formée, et demander à un modèle à part d'apprendre ça. Donc, dans les approches classiques, comment ça fonctionnait? Donc, on a besoin de deux sources de données. D'un côté, pour apprendre le modèle langage, en gros, ce sont de grandes quantités de textes. Donc, ce sont des données qui n'ont pas de label, non supervisées. Et ça, on le trouve un peu partout dans les journaux, sur Internet. Donc, c'est une ressource pratiquement illimitée. Alors, ensuite, le système crée un modèle qui est capable de donner une probabilité à n'importe quelle séquence de mots. Pour le modèle de traduction, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a besoin d'une supervision. Donc, pour chaque phrase source, on a besoin d'une traduction qui, a priori, a été faite par un être humain un jour. Donc, c'est un peu plus difficile à trouver. Et la quantité disponible, c'est largement plus petit que le modèle monolingue. Et en fait, la plupart des sources sont des organisations internationales comme les Nations Unies, la Commission européenne. Il y a aussi ce qu'on appelle les TED Talks, ce sont des exposés qui sont traduits dans plusieurs langues, ou éventuellement certains projets en informatique comme PHP, OpenOffice, qui produisent une documentation dans plusieurs langues. Il y a aussi la possibilité de travailler sur des corpus qui ne sont pas parfaitement parallèles, comme Wikipédia. Il y a juste des parties qui sont où les news des AFP, et après on essaie d'extraire le corpus, les parties parallèles. Donc très simplifié, comment fonctionne un système de traduction classique, donc non neuronal. Donc vous avez les deux sources de données, donc les textes parallèles ici, les textes monolingues là. Chaque fois vous faites une analyse statistique et vous avez un modèle. Donc ici c'est le modèle langage qui apprend à donner une probabilité à une suite de mots, comme ça qu'il est beau c'est très élevé, alors qu'il est belle. C'est pas zéro, parce que zéro, c'est pas pratique, parce qu'on a un produit de probabilité, mais idéalement très faible. Et le modèle de traduction, donc il est aussi extrait automatiquement à partir de ce texte-là, avec un processus qui est assez compliqué, que je ne peux pas détailler ici. À la fin, on obtient ce qu'on appelle une table de traduction. En fait, c'est une grande énumération de petites suites de mots et les traductions probables avec des probabilités. Et ça, c'est extrait automatiquement. Là, l'exemple est bien, mais il y a aussi des erreurs qui sont là-dedans. À la fin, en fait, quand on veut traduire une phrase, il regarde quelles sont les traductions possibles, il combine tous les morceaux, il demande au modèle langage, est-ce que ça a un sens, côté cible, et après, il trouve la meilleure séquence. Donc ça, c'est un processus assez complexe qui demande plusieurs étapes intermédiaires. Donc d'abord, on effectue un alignement mot par mot entre source et cible dans les deux directions. Ensuite, on extrait les petites groupes de mots qu'on appelle les phrases en anglais pour traduire ça. Ensuite, on donne les calculs des probabilités pour donner à ces groupes de mots. Ensuite, séparément, on apprend un modèle langage. Ensuite, on combine tous ces modèles-là. On donne des coefficients qu'il faut estimer avec une technique numérique. Et à la fin, on a notre système de traduction. Donc, sans aller dans les détails, vous voyez ici qu'il y a toute une étape de plein de modules ou modèles intermédiaires qui sont optimisés selon certains critères, qui n'a pas forcément un lien avec la qualité de la traduction à la fin. Ça, c'est un des gros problèmes des systèmes de traduction phrase-based classique. Maintenant, on va passer à la modélisation neuronale du texte et on va aboutir à la fin d'un système entièrement neuronal. Mais je vous montre un peu le chemin qui nous amène là-bas. Donc, les premiers travaux, c'était un modèle de langage neuronal. Donc, si vous rappelez l'introduction sur l'embedding des mots, donc si vous prenez un modèle de langage standard, donc vous faites une estimation des probabilités dans un espace discret, de grande dimension. Donc ça veut dire que la densité des probabilités ne sont pas continues. Donc vous pouvez en fait changer un mot dans un autre et vous n'avez pas vraiment une idée comment change la probabilité en sortie. Ça peut être très faible, très énorme, on ne peut pas interpoler. Donc l'idée de base, Yoshio Benjo en 2001, si c'est cet espace discret qui nous pose problème, on projette dans un espace continu. Une fois qu'on est dans cet espace continu, on peut faire notre estimation des probabilités a priori avec n'importe quelle technique dont on dispose. Donc, au début, c'était fait avec un réseau de neurones. Donc, ça, c'est rapidement les principes. Donc, vous avez ici à l'entrée une certaine suite de mots. Ici, on appelle ça un quadrigramme, parce que vous avez un contexte de trois mots, et on prédit la probabilité du mot suivant. Donc, ces mots-là sont... Oups, c'est un peu rapide, là. Donc, les mots sont projetés dans un espace continu de grande dimension, habituellement entre 100 et 500. Et c'est la même projection pour chacun des mots dans le contexte. Parce qu'a priori, il n'y a pas une motivation pour distinguer ça. Donc ça veut dire que chaque mot correspond à un petit point dans un espace de dimension 100. Ensuite, ces trois points-là, ces trois mots, on fait une concaténation, on obtient un seul vecteur. Et derrière, il y a un réseau de neurones assez classique, profond ou pas, qui fait l'estimation des probabilités et qui nous donne en sortie, je vais un peu utiliser le pointeur, en sortie la probabilité pour un certain mot étant donné ces contextes-là. Donc ce qui est important, en fait, ici, il donne la probabilité pour tous les mots qui sont connus du vocabulaire. Comme on apprend ce système-là, c'est tout simplement avec la rétropropagation du gradient. Donc on a un coup, un loss ici en sortie, donc on compare avec la bonne réponse, et après, on fait tout simplement la rétropropagation du gradient. Donc ce qui est très important, puisqu'on a ici une architecture qui intègre aussi bien la projection des mots que l'estimation des probabilités, l'erreur est rétropropagée dans les embeddings. Donc le réseau apprend automatiquement quelle est la meilleure projection pour sa tâche. Et en pratique, ça fonctionne très bien. Sauf il y a quelques petits aspects. Donc, effectivement, un réseau de neurones comme ça, il y a beaucoup de couches cachées, beaucoup de cellules. Donc, ça, c'est une complexité assez élevée. Donc, il y a plein d'astuces qu'il faut appliquer pour que ça tourne suffisamment rapidement. Après, on reviendra plusieurs fois, un peu plus tard. Donc, il y a ici, à la sortie, en fait, on a une sortie pour tous les mots connus dans le vocabulaire. Donc, habituellement, ça peut être relativement grand, entre 40 et 50 000. Donc, ça fait une grande couche, donc il y a énormément de calculs à faire. Donc, ça peut poser un problème. Il y a plein de techniques pour éviter ça. On ne peut pas trop les détailler ici. Et finalement, aussi, une fois qu'on tourne ces modèles de langage, comment on les met, par exemple, dans notre système de reconnaissance de la parole ou le système de traduction. Donc, ce qui est très souvent utilisé, en fait, on demande au système de traduction classique d'abord produire une liste d'hypothèses possibles, qu'on appelle un NBEST. Ensuite, on demande au modèle de langage en fait, de retrier ça et dire « moi, je devrais mettre l'une ou l'autre plus haut ». Après, une fois qu'on s'était proposé en 2001, il y avait plein de variantes. Donc, en un certain moment, on s'est demandé est-ce que ça vaut mieux utiliser de réseaux de neurones feed-forward ou éventuellement des architectures récurrentes comme les RNN ou les LSTM. Est-ce qu'on utilise des architectures profondes ou plutôt plats? Donc ici, il y a une petite étude. Donc si on définit la probabilité d'une suite des mots, donc c'est le premier mot, et ensuite on a le produit de tous les mots suivis chaque fois avec les contextes complets de tous les mots qui précèdent. Et je ne l'avais pas trop détaillé ici, mais ce qu'on appelle l'approche n-gram, en fait, on limite les contextes sur un certain nombre limité de mots précédents, habitude 3 ou 4, dans les approches classiques. Donc, si on se rappelle à cette formule-là, mais l'approche la plus logique, ça serait en fait d'utiliser ce qu'on appelle un réseau de neurones récurrents, parce qu'en fait, il mémorise, dans son état caché, tous les passés. Donc, c'était proposé en 2010 par Thomas Mikolov et a été repris par mal de personnes. Et ça fonctionne aussi assez bien pour les modèles de langage neuronaux. Après, il y a quelques aspects pratiques, déjà mentionnés par Yann, donc qui s'est rendu compte qu'un réseau de neurones le type Hellman a un peu tendance, avec si la séquence est trop longue, que les gradients diminuent ou éventuellement explosent aussi parce qu'ils sont chaque fois multipliés par une non-linéarité. Donc il y a une variante qu'on appelle LSTM qui est devenue très populaire dernièrement, depuis quelques années, qui est censée de remédier ça. Par contre, d'autre côté, un réseau de neurones récurrents peut être un peu plus compliqué à optimiser. Alternativement, au lieu de passer un réseau non-récurrent, en fait, rien ne nous empêche. Si vous avez la structure feed-forward, au lieu d'avoir ici 3 mots, d'en avoir 10 ou 20 à l'entrée. En fait, c'est relativement simple, ça ne coûte pas très cher, parce que toute la complexité est ici, et il n'y a pas d'effet d'oubli, parce que les réseaux de neurones voient chaque fois tous les mots, ils ont le même poids. En fait, c'est lui tout seul qui peut décider si jamais les poids ici sont plus faibles qu'ailleurs. En fait, en pratique, ça fonctionne très bien. Donc, vous avez ici une courbe qui mesure la perplexité, donc c'est une mesure de qualité de modèle de langage, donc le plus faible, le meilleur, en fonction de la taille du contexte qui est utilisé. Donc si vous regardez la taille habituelle d'un contexte de 40, ça donne une certaine perplexité de 60, et ça diminue fortement si on augmente le contexte. Et même jusqu'à une valeur d'une vingtaine de mots, à peu près, ça diminue. Donc on a fait cette étude pour différentes langues, et ce qui est assez intéressant, c'est cette valeur limite où ça commence à saturer dépend un peu de la langue. Donc ça a tendance d'être un peu plus court pour l'anglais, un peu plus long pour les langues comme français ou l'allemand. Donc en fait, c'est très important de ne pas se limiter à un modèle de langage, à un quadrigramme ou quelque chose comme ça, mais d'aller, disons, à une dizaine. Et vous voyez ici, ça fait une grande différence. Et ce qui est bien aussi, donc j'anticipe un peu sur la traduction automatique, donc si vous intégrez ces modèles de langage dans ce système de traduction, donc les gains en perplexité se traduisent aussi en gains dans le score de qualité. Donc en traduction, habituellement, on utilise ce qu'on appelle le score bleu. Donc c'est une mesure de précision. Donc ici, ce n'est pas minimisé, il faut les maximiser. Ça mesure un peu, en gros, combien de suites de mots d'une certaine longueur entre 1 et 4 mots sont entre l'hypothèse du système et une référence sont communs. Et on multiplie ces probabilités. Et vous voyez ici, jusqu'à un ordre à peu près de 14, le score augmente de façon assez importante et après ça sature. Donc, ici, vous avez encore un petit gain en perplexité, mais ça ne joue plus pour la traduction. Après, il y avait la question, est-ce qu'on utilise un réseau de neurones avec une seule couche cachée ou éventuellement une architecture un peu plus profonde? Donc, il y a une étude qu'on a faite là-dessus aussi. Donc, ici, il y a beaucoup de chiffres. Donc, en gros, vous voyez entre une couche cachée jusqu'à quatre couches cachées, les perplexités du modèle correspondant, le nombre des paramètres et, pour information, aussi les temps d'apprentissage. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici dans tous ces chiffres? Donc, c'est une seule couche cachée, ce n'est pas suffisant. Donc, vous avez ici un score bleu qui gagne un petit peu par rapport à une approche non neuronale, mais on peut faire nettement meilleur si on utilise par exemple deux couches cachées, ici, avec une certaine taille. Donc, le score est légèrement meilleur avec les mêmes paramètres. Et si on utilise encore une troisième couche, finalement, vous avez moins de paramètres, mais vous avez un gain du score. Après, si vous allez encore un peu plus loin, avec quatre couches cachées, il n'y a plus trop de différence. Donc, ça, c'était quelques résultats, c'est le modèle de langage neuronal. Donc, depuis la proposition 2001, après, ça a pris un peu de temps, donc il y avait très peu de chercheurs qui ont travaillé dessus, mais depuis à peu près 5 ans, disons, tout le monde a vu que ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, en fait, c'est admis que le modèle de langage neuronal, ça a quasiment remplacé le modèle classique et c'est utilisé partout. Et il y a plein de nouvelles variantes qui ont été proposées. Donc la question qui se pose, bien sûr, est-ce qu'on peut faire quelque chose de similaire pour les modèles de traduction qui met en relation la source et la cible? Et là, c'est probablement même plus important que pour le modèle de langage parce qu'on a un nombre limité de données, donc le fait d'avoir une bonne interpolation, une bonne génération semblerait être plus important. Donc il y avait une première idée. Donc est-ce qu'on peut éventuellement estimer les probabilités de traduction entre des petites suites de mots avec une approche un peu simple mais qui fonctionne aussi? Donc si vous voulez estimer la probabilité d'une certaine suite de mots, par exemple entre 1 et 7 mots, étant donné une petite suite de mots côté source, donc on peut d'abord factoriser ça, si on continue le calcul jusqu'à la fin, on obtient le produit sur chaque mot cible étant donné toute la source et les mots cibles précédents. Si on suppose qu'on fasse une petite simplification, on saute cette dépendance-là, on obtient un terme très simple. En gros, ça veut dire qu'on prédit chaque mot cible séparément, sans regarder un lien entre eux, uniquement conditionné sur la source. Ça, en fait, si on se rappelle maintenant la structure du modèle langage neuronal, c'est relativement simple à mettre en place. Si vous enlevez toute cette partie-là, vous avez un modèle langage neuronal, vous avez un certain nombre de mots en sortie, vous prédisez une sortie. Au lieu de prédire une sortie, on prédit plusieurs sorties maintenant, et en fait, rien ne nous oblige, nous contraint ici, les vocabulaires en entrée, en sortie est différent. Donc si vous passez des modèles de langage qui ont un contexte un certain nombre de mots, qui prédit le mot suivant, vous passez à un premier modèle de traduction qui a une petite suite de mots cibles et qui prédit quelques mots côté cible, pardon. Donc après, vous pouvez imaginer différentes structures pour éventuellement partager ici plus de choses, avoir quelque chose de hiérarchique, pour réintroduire cette dépendance entre les mots cibles. Donc ça fonctionnait un petit peu, mais ce n'était pas phénoménal. Donc comment on peut faire mieux? Donc après, il y avait des gens, un certain nombre de publications qui ont essayé de mettre en relation la source et la cible. On avait appelé ça le Joint Translation Model, donc le modèle joint entre la source et la cible. Donc l'idée de base était de conditionner le prochain mot de la phrase cible sur les mots précédents, comme d'habitude, mais aussi mettre la source d'une certaine façon à l'entrée du réseau de neurones. Donc il y avait trois approches un peu différentes qui avaient à peu près la même idée, et ça marchait pas mal. Donc c'était un deuxième compromis entre un vrai modèle de traduction. Sauf qu'ici, en fait, en sortie, vous avez juste chaque fois uniquement un seul mot. Donc vous essayez de prédire les prochains mots, une probabilité des prochains mots étant donné les mots précédents et les phrases sources. En gros, ils ont implémenté cette dépendance ici. Donc au lieu de faire cette simplification, on néglige la dépendance entre les mots cibles, mais on le met à l'entrée du réseau de neurones et puis on le fait ça. Ça marchait pas mal aussi, donc mieux que le premier modèle de traduction. Mais la question qui se pose maintenant, est-ce qu'on ne peut pas se débarrasser de tout ce modèle de traduction classique qui a, rappelez-vous, qui a plein de petits modules indépendants qui sont optimisés et faire un système complètement neuronal. En fait, cette étape-là n'était pas si compliquée. On y était déjà un petit peu, si vous regardez ces modèles de nouveau. Qu'est-ce qu'il faut changer pour passer un système entièrement neuronal? Donc, en fait, il y a trois choses à changer. Donc, au lieu de mettre ici des petites séquences, les phrases à l'entrée et sortie, on passe tout de suite à des séquences, des phrases entières. Après, il faut un certain modèle de langage en sortie, rappelez-vous. Donc, il faut conditionner le mot suivant sur le mot précédent en sortie. Et au lieu de l'approche n-gramme, donc ou une taille fixe, il convient de passer à un réseau de neurones, une certaine structure récurrente. Donc ça, ça a été fait. C'était appelé une approche encodeur-décodeur, ou ce qui signifie la même chose, c'est une approche sequence-to-sequence. Parce qu'en fait, il y a une séquence ici, et on produit une séquence en sortie. Donc il nous faut un vrai modèle génératif en sortie. L'idée de base est relativement simple, pour qu'on appelle ça encodeur-décodeur. Donc vous avez ici en entrée une séquence de mots. Vous avez un réseau de neurones ici à détailler dans le transparent suivant. Et vous trouvez une représentation compacte de la phrase entière. Et une fois que vous avez cette représentation, vous avez un modèle génératif qui vous produit les mots en sortie. Donc si vous voulez, c'est à peu près le même principe ici. Vous avez ici une représentation de la phrase entière. Ou, sauf que ce n'était pas une phrase entière, c'était limité à quelques mots. Cette architecture n'a pas de chance de fonctionner si la séquence est trop longue. Donc il y a un certain nombre d'approches qui ont été proposées pour ça, en fait, tous en 2014. Donc ça fait, si vous prenez les dernières publications, c'était la fin de l'année. Donc ça fait à peine une année et demie. Et depuis ces publications, en fait, le domaine de la traduction entièrement neuronale, on peut presque dire, a explosé. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a une vingtaine ou une cinquantaine d'articles qui tournent autour de ça. Donc, quelques idées. Donc, le premier approche, qui était initialement limitée aussi pour juste calculer les traductions de probabilité pour les séquences trop courtes, mais après, rapidement généraliser les phrases entières. Donc, ça, c'est la figure originale des auteurs, mais si vous mettez cette partie-là sur l'autre côté, c'est un peu plus facile à comprendre. Donc, vous avez ici l'encodeur. Donc, vous avez une séquence de mots côté source, S1 jusqu'à SS. Vous le mettez ça dans un réseau récurrent, et si vous prenez le dernier état du réseau récurrent, si ça marche bien, il est censé de contenir toutes les informations sur la phrase. En fait, vous prenez cette représentation de la phrase, vous le mettez dans un décodeur, qui au début, en entrée, n'a pas d'informations, qui va commencer une nouvelle phrase, et générer le premier mot cible, et maintenant c'est la partie importante, ce premier mot cible, on le met à l'entrée, donc il sait ce qu'il a fait avant, et il continue à créer, à sortir des mots jusqu'à ce que le réseau, c'est à lui de décider lui-même, c'est la fin de la phrase. On ne peut pas lui dire quand c'est fini, parce que premièrement, la longueur source et cible n'est pas forcément identique, surtout en général, parce que le français, c'est toujours un peu plus long que l'anglais, et l'allemand, c'est encore autre chose. Donc c'est au réseau lui-même de décider quand est-ce qu'est la fin de la séquence. Cette structure... On peut dire, une fois qu'on l'a trouvé, ça paraît relativement simple, ça fonctionne drôlement bien. Quelques spécificités encore. Donc vous voyez ici ce qu'on appelle l'encodeur. En fait, ce réseau récurrent, il n'a pas de sortie. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de cible, donc il n'y a pas de gradient ici. Donc en fait, il attend entièrement qu'on a créé une phrase, on a comparé avec la cible, et que les gradients soient rétropropagés ici. Donc il n'y a pas d'information. Donc ça, c'est un problème un peu plus compliqué à apprendre, et c'est probablement la raison aussi pour que ces approches-là ne fonctionnent pas si bien que ça. Malgré tout, ça avait donné déjà des scores bleus intéressants. Après, dans une autre publication, à peu près au même moment, c'était un peu généralisé. C'est la même idée derrière, sauf qu'ils ont utilisé un réseau de neurones un peu plus compliqué. Donc le réseau récurrent, c'était notamment les LSTM ici, mais qui est utilisé avec plusieurs couches. Donc on appelle ça des stacked LSTM. Avec quelques petits détails, donc entre les couches, on utilise ce qu'on appelle un drop-out. Donc on limite un peu l'information qui passe pour forcer le réseau de neurones à être un peu plus tolérant aux erreurs. Et après, d'autres astuces, comme par exemple, si vous présentez ici la séquence, ici, premier jusqu'au dernier mot, et après vous produisez la sortie, pour la plupart des langues, les paires de langues, l'ordre des mots, c'est à peu près pareil. Donc, il se montrait que c'était plus simple de présenter le mot dans le sens inverse. Comme ça, le réseau se rappelle encore un peu plus le dernier mot qui correspond au premier mot à produire. un peu l'argument, de toute façon, à la fin, ça ne marche presque plus parce que ça fait trop longtemps dans le passé, donc il vaut mieux être quand même correct au début. Et ça marche de façon assez bien. Si on optimise très bien ce réseau de neurones récurrents, les LSTM, trouve la bonne architecture, et passe une ou deux semaines à l'apprendre, on obtient des scores bleus qui s'approchent déjà beaucoup au système classique. Ça, c'est assez remarquable parce que le système classique, c'est quand même le résultat d'une dizaine d'années de recherche pour les optimiser. Et là, on prend un gros réseau de neurones, on mouline ça un petit peu et ça fonctionne. Donc, première conclusion sur cette approche-là. Donc, vu, entre guillemets, la simplicité du système à comparer avec ce que je vous ai montré tout à l'heure pour un système classique, ça fonctionne de façon surprenante assez bien. Et si on regarde le système ici, ou ça peut être un peu plus clair ici, ce que vous avez en sortie ici, en gros, c'est un modèle langage, c'est la langue cible, qui est juste conditionné avec, en entrée avec une représentation de la source. Donc c'est quand même une tâche relativement compliquée. Parce que vous changez le vecteur ici, vous avez une sortie complètement différente. En gros, toutes les phrases imaginables sont représentées ici dans un espace de dimension 1000, par exemple. En gros, c'est presque un peu surprenant que ça fonctionne. Donc, on ne peut pas se poser la question comment ce système se débrouille pour encoder la longueur de la phrase, parce que c'est à lui de décider tout seul quand la phrase est finie. Et comment il gère entre la source et la cible quand les mots ne sont plus dans le même ordre. Et de façon non surprenante, on a remarqué dans ce genre de système que les performances chutent pas mal avec la longueur de la phrase. Si vous avez une phrase de 5 ou 10 mots, ça marche bien, 16 encore, mais si vous avez 20, 50 ou 100 mots, ça commence à être un peu difficile. Après, on peut dire une phrase de 100 mots, est-ce que ça a un sens? Mais en fait, dans les documents dont on dispose, la Commission européenne, il y a des phrases effectivement assez longues. Donc, Yann l'avait déjà annoncé, donc une solution possible, ou qui est très populaire aujourd'hui, pour éviter ces problèmes-là, c'est introduire un mécanisme d'attention. Donc l'idée, en fait, est relativement simple, et c'est probablement aussi comme ça les traducteurs humains qui fonctionnent. Vous ne regardez pas une phrase entière, potentiellement très longue, vous la mémorisez, après vous la traduisez. Vous faites un petit pas. Vous traduisez peut-être morceau, pas mot. Donc l'idée ici, de ne pas conditionner la sortie sur toute la phrase entière, mais demander au réseau de neurones, pour chaque mot cible qu'on veut produire, c'est peut-être une sous-partie de la phrase source qui nous intéresse. Et ce qui est intéressant dans ce mécanisme, c'est le réseau lui-même qui décide quelle est la sous-partie qui m'intéresse. Donc ce n'est pas imposé parce qu'on a du mal, parce que parfois il y a un réordonnancement. La plupart des cas, c'est à peu près une fenêtre lissante séquentielle, mais c'est le réseau qui décide ça tout seul. Donc ici, il y a une petite figure que j'ai empruntée des auteurs. Donc quelle est l'idée? Donc vous avez ici, en entrée, la suite des mots côté source. On a un réseau récurrent, une petite astuce, qui fait une récurrence avant, une récurrence arrière. Donc il y a un réseau qui mémorise la suite des mots du premier jusqu'au dernier, un autre réseau du dernier jusqu'au premier. Et si vous concaténez ici au milieu les deux états cachés de ce réseau récurrent, en fait vous avez une représentation jointe qui résume les passés et les futurs par rapport aux mots actuels. Et ensuite, là, vous avez les décodeurs dans la sortie, donc vous prédisez chaque fois un mot qui est conditionné maintenant sur une combinaison linéaire de ces représentations compactes. Donc au lieu de prendre, si vous voulez, le modèle précédent, juste la dernière, ou peut-être la première, on laisse décider au réseau de neurones, tu fais une combinaison linéaire de tout ce qui t'intéresse, ce qui est décidé aussi par le réseau de neurones, et tu utilises ça pour prédire le mot suivant. Il s'est montré, et ça c'est agréable, qu'en pratique, le réseau de neurones, il pourrait chaque fois faire une sorte de moyenne, mais en fait, il apprend en fait, se focaliser sur des parties de l'entrée. Ça, il apprend ça tout seul. Donc ce qui nous donne finalement un alignement entre chaque mot ici en sortie et les mots sources correspondants. Mais ce qui est important, ce n'est pas un alignement binaire, ça veut dire ça, c'est le mot, mais c'est un peu flou au mou, comme on dit en français, donc soft, c'est mieux en anglais, et ça fonctionne assez bien. Ici, vous avez un exemple, par exemple, entre le français et l'anglais, donc la croissance économique s'est ralentie ces dernières années, ici la traduction en anglais, et un peu l'épaisseur des traits montre la force de l'alignement. Donc économique est ici aligné avec celui-là, le growth, c'est la croissance avec le « la » un peu plus faible, Ici, pour le Hess, il n'était pas si sûr que ça, mais finalement, il l'a quand même. Ici, il a regroupé les deux mots. Donc là, le down, il n'y a pas de flèche, mais je pense qu'il doit être très faible, parce qu'a priori, il ne génère pas un mot sans alignement, alors qu'éventuellement, oui, ça peut être le modèle de langage qui sert à bah, slow, ça peut être le down qui suit, et ainsi de suite. Et là, vous avez un autre exemple entre l'allemand et l'anglais. Donc, ce qui est important de souligner, c'est que cet alignement-là, ce n'est pas imposé, ce n'est pas dans les données, c'est appris tout seul. Et si on utilise cette approche-là, donc on a découvert qu'en fait, la chute des performances ici, donc c'est toujours le score bleu qu'il faut maximiser, je rappelle. Dans les premières approches encodeur-décodeur, ça diminue beaucoup avec la longueur de la phrase. Et une fois quand on a ce mécanisme d'attention, ça ne semblerait être plus le cas. Ici, petite anecdote. Donc ici, vous avez différentes valeurs. En fait, quand on produit la sortie, on peut, si vous le regardez, le plus simple, c'est peut-être ici. On produit un premier mot ici, ensuite on met ça en entrée, ainsi de suite jusqu'à la sortie. Donc en gros, toute la sortie dépend beaucoup du premier mot. Donc si le système se trompe sur le premier mot, bah, toute la suite n'a potentiellement aucun rapport avec la phrase. Mais en même temps, il se peut que si vous regardez les probabilités des premiers mots, il y a peut-être deux mots qui sont très proches. Il y en a un avec une probabilité 0,5 et l'autre avec 0,4. Donc normalement, on prendra celui avec 0,5 et ça l'entrée suivante. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, on appelle ça en anglais un beam search. Donc au lieu de faire une décision finale ici qui détermine toute la séquence, on en garde un certain nombre. Donc vous prenez par exemple 3 ou 4 ou 10 premiers mots les plus forts ici et vous produisez les séquences qui suivent toutes derrière. On appelle ça un beam search et en général, une valeur de 10, ça fonctionne bien. Ou le plus important, c'est de passer de 1 à 2, de laisser un choix, de ne pas figer tout de suite les premiers mots. Donc vous voyez ici que ça, c'est très important ici, parce que si vous avez une valeur de 30, donc vous gardez toujours 30 solutions en parallèle, ça chute pas mal, il faut mettre une valeur de 50. Par contre, c'est un peu coûteux en pratique, parce qu'en fait, vous passez plus ou moins 50 fois dans le réseau. Ici, quelques résultats, donc je ne suis même pas 100% sûr que ce soit encore les derniers résultats, parce que ça bouge tellement vite. Donc vous allez voir plusieurs fois sur les transparences, ça s'appelle WMT, c'est une évaluation internationale ouverte à tout le monde, les entreprises, les académiques qui tournent depuis quelques années. Donc en fait, on met un corpus ou plusieurs corpus à disposition. Donc c'est les mêmes conditions pour tout le monde. Après, on fait un modèle, soit neuronal, classique ou tout ce que vous voulez, et on compare sur les mêmes données. Donc ce qui permet d'avoir un peu connaître l'état de l'art et se comparer entre nous. Et ce qui était assez remarquant, qu'en fait, que les systèmes neuronaux sont maintenant déjà capables de battre, donc c'est toujours le score bleu, donc le plus grand, le meilleur, des systèmes assez classiques. Et le plus surprenant, un peu pour moi, que ça marche très bien sur l'allemand. Donc le système qui produit l'allemand en sortie, une langue quand même relativement compliquée, avec énormément de dépendances entre les mots, les accords et tout ça, et le placement des mots, et ce système neuronal qui n'a aucune information sur les structures, la syntaxe, ça se débrouille très bien ici. Donc vous avez anglais vers l'allemand. Par contre, les résultats ne sont pas encore très consistants, donc parfois ça ne marche pas du tout, parfois ça marche très bien, donc on ne sait pas encore tout. Mais vu que ça fait juste une année qu'on a proposé ces approches-là, c'est très prometteur. Donc une fois que ces modèles ont été établis, donc il y a un certain nombre de défis à faire. Donc un grand problème, ce qu'il avait déjà mentionné un peu avant, c'est la taille de la couche de sortie, parce que vous prédisez quel est le mot suivant. Donc vous avez une liste des mots, donc c'est une complexité de calcul importante parce que vous avez une grosse couche. Surtout, comment on gère les mots qui ne sont pas connus aussi. Après, si on regarde ce modèle-là, il a appris uniquement avec les corpus parallèles, parce qu'il faut mettre en entrée une phrase source, et on a besoin de la phrase cible ici pour calculer le gradient et faire apprendre le système. Donc on n'utilise pas du tout les données monolingues qui étaient initialement juste pour le modèle langage. Ils ne sont pas utilisés ici. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça? Après, donc, il y a des premières architectures qui ont été proposées pour les encodeurs ou les décodeurs, mais il y a plein d'autres variantes qui sont explorées. Il y a un point que je ne peux pas trop détailler ici, donc une différence entre l'apprentissage des réseaux récurrents et l'utilisation. Donc parce que quand on veut traduire une phrase inconnue, on utilise ce beam search en sortie, alors quand on l'apprend, on prend la vérité, donc ça pose un problème. Et ce qui est devenu aussi un sujet de recherche très vif dernièrement, c'est est-ce qu'on peut apprendre plusieurs systèmes en parallèle ? Je vais vous détailler ça aussi. Donc le problème, la taille du vocabulaire, donc c'est extrêmement coûteux. Donc, et si vous avez un softmax, soit 100 000 sorties, c'est aussi relativement difficile à prendre. Mais ce n'est pas le seul problème, c'est aussi... Parce qu'en fait, là, j'ai parlé des vocabulaires de 50 ou 100 000 mots. En fait, vous allez me dire, en français, il n'y a pas 100 000 mots différents. Donc, je crois que si un français moyen, il connaît peut-être 15 ou 20 000 mots différents. Mais en fait, les systèmes, ils sont relativement bêtes. On est obligé d'énumérer toutes les formes des mots. Donc, quand on compte un mot, ce n'est pas juste l'infinitif du verbe, c'est toutes les formes imaginables. Actuellement, ça fonctionne comme ça, mais il y a aussi des approches. Ça. Et il y a aussi, si vous faites la traduction des actualités, il y a beaucoup de noms propres. Donc, normalement, si on ne fait pas attention, ça apparaît, chaque nom propre apparaît dans la liste du vocabulaire. Ça, ce n'est pas très efficace, parce que la plupart des cas, au moins si vous passez de l'anglais à français, a priori, on copie le mot tel quel l'entrée vers la sortie. En fait, dans le système classique, on a fait ça. Si on a un mot inconnu, on l'a copié. Et là, dans un système neuronal, vous ne pouvez pas faire ça, parce que la notion de copier, ça n'existait pas. Et aussi, l'aspect que donc, la taille du vocabulaire, c'est principalement dû à beaucoup de variantes morphologiques, ou si vous regardez l'allemand, la composition des mots. Donc, est-ce qu'on peut gérer ça d'une façon un peu plus efficace ? Donc, il y a pas mal de solutions. Donc, on a tenté tout ce qui était déjà proposé pour les modèles langage neuronaux, donc faire des classes en sortie, faire des classes hiérarchiques, faire ce qu'on appelle les noise constructive estimation, que je ne peux pas trop détailler ici. Mais ce qui était un peu plus actuel, on s'est demandé, bon, si, vous voyez, c'est un peu la même philosophie que tout à l'heure, c'était l'espace discret qui posait problème, on passe à un espace continu. Donc maintenant, c'est les mots qui nous posent des problèmes, ah, peut-être on peut mettre en cause. Pardon. On peut peut-être mettre en cause l'utilisation des mots comme unité de base. Donc, quelles sont les options ? Donc, on peut couper les mots dans les morceaux un peu plus petits. Ça peut être des n-grammes, donc des petites séquences de caractères, ou éventuellement une suite un peu de taille variable. Ou, dernièrement, ou très récemment, on a commencé à travailler sur la traduction automatique caractère par caractère. Donc, le système prend en entrée un flux de caractères et produit un flux de caractères. Donc là, bien entendu, vous n'avez plus le problème de vocabulaire, parce qu'il y a une centaine de caractères possibles. Donc, c'est surprenant, mais vous allez voir, ça fonctionne aussi. Donc, une première approche, donc dans la suite, je présente un certain nombre d'articles qui ont travaillé sur cette thématique-là. Donc, je m'excuse d'avant si j'avais oublié quelqu'un, parce que ça change tous les jours, donc c'est juste un échantillon. Donc, un travail ici, donc, c'est l'idée de décomposer les mots dans les unités plus petites. Donc, si on fait ça, évidemment, avec le même vocabulaire, on peut couvrir plus de mots, parce que si vous prenez les caractères, vous pouvez couvrir n'importe quel mot imaginable. Si vous prenez des séquences de caractères, le vocabulaire un peu plus grand, vous pouvez aussi couvrir. Et surtout, il y a la possibilité éventuellement de pouvoir reconnaître des mots que vous n'avez pas vus dans les données d'apprentissage. Il y a différentes possibilités qui ont été imaginées. Donc c'est le bi ou trigramme ici, une petite faute, parce qu'après les 4 trigrammes, ça fait le vocabulaire trop grand, on n'a pas assez de données. Ou ce qui était plus intéressant, au lieu de limiter, de couper les mots dans les séquences de taille fixe, de couper ça dans les séquences de taille variable en fonction de la fréquence. Si vous avez une suite de 5 mots qui est très fréquent, donc 5 caractères, pardon, on utilise celui-là, donc c'est déterminé automatiquement. Ce qui est important ici, que ces sous-unités, donc la façon de couper les mots, il n'y a aucune motivation linguistique derrière. Parce qu'il y a des techniques là aussi, donc on pourrait dire des syllabes, ce genre de choses-là, donc on ne le fait pas ici. Donc on laisse le réseau s'est déployé. Donc là, vous avez un exemple de la décomposition, différentes décompositions. Donc si vous avez en anglais le mot Health Research Institutes, donc a priori, on peut supposer que les 3 mots sont connus dans le vocabulaire, donc le système pourra les traiter. Mais en allemand, on a la mauvaise habitude de coller tous les mots, ça fait un nouveau mot. Et il y en a qui sont très 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 longs. Et il est fort possible que ce mot-là n'apparaît pas dans un vocabulaire limité de l'allemand. Donc, si on coupait ça en bigramme, donc en suite de 2 caractères, vous aurez quelque chose comme ça, qui fait des suites complètement non signifiantes de caractères. Ou, l'autre option, si on utilise ce découpage en unités de taille variable en fonction de la fréquence, il est trouvé tout seul qui est pas Gesundheit, qui est la santé finalement. Ça apparaît dans beaucoup de mots composés, donc ça fait du sens de couper ça comme ça, mais ça peut donner ici des coupures ici qui n'ont pas trop de sens, en fait, linguistiquement. Mais ça apparaît plus souvent qu'une autre coupure. Si on augmente le nombre de coupures autorisées, effectivement, il va couper un peu plus, et ça donne quelque chose de plus raisonnable, entre guillemets. Et le but, c'est pas que ce soit raisonnable pour nous, parce que ce soit facile à gérer pour le système. Donc ici, quelques résultats de la traduction anglaise vers l'allemand. Donc si on regarde le vocabulaire entier des mots dans un gros texte allemand, on aurait 1,7 milliard de mots, ce qui est énorme. Donc effectivement, on ne va pas faire un réseau de neurones avec autant de sorties. Ça, c'est très coûteux. Donc si on utilise cette technique-là, avec un vocabulaire de 60 000 mots, donc en pratique, on utilise quand même 40 mots entiers, plus 20 cas, on utilise ça pour les découpages, ça avait donné un gain assez important, la qualité de la traduction, et surtout, ça avait diminué le nombre de mots qui n'étaient pas connus par le système. Donc, avec cette façon-là, il a pu couper ça en morceaux et gérer. Mais par contre, il faut se souvenir que ça ne garantit pas forcément une bonne traduction. Parce qu'il y a ces petits morceaux-là, mais après, comment il va les traduire et récomposer, il faudrait voir ça en détail dans le système. Après, il y a plusieurs travaux maintenant qui passent au niveau des caractères, soit en sortie, uniquement en entrée, uniquement en sortie, ou éventuellement les deux. Donc il y a toutes les techniques ici. Donc ici, une première approche, donc, je pense qu'elle date tous de 2016, ici, donc il y a juste quelques mois. Donc on peut éventuellement utiliser un réseau convolutionnel pour prendre ces suites des caractères et finalement concevoir un réseau de neurones qui apprend un embedding du mot entier à partir d'une séquence de caractères. Il y a d'autres travaux, en fait, vous pouvez presque voir ça comme un réseau de neurones hiérarchique. Donc vous avez un premier réseau de neurones récurrent qui convertit une suite de caractères dans un embedding, un vecteur, et ensuite vous avez un deuxième réseau récurrent qui prend cette suite d'embedding, qui est la phrase, pour trouver une référence à la phrase. Vous pouvez même pousser l'idée plus loin et passer au niveau du paragraphe, vous avez une suite de paragraphes, qui résume, et imaginons à la fin vous avez un seul vecteur qui résume un livre entier. On n'y croit pas trop parce que ça serait un peu trop compact. Donc cette technique a été appliquée toujours pour l'anglais et l'allemand, parce qu'ici c'est quand même très important le problème du vocabulaire. Ils avaient obtenu un gain assez important et surtout ça semble une solution intéressante pour gérer la composition de mots en allemand. Après, il y a un autre article très récent, depuis quelques semaines. Donc, les gens se posaient la question, est-ce qu'il est possible de concevoir directement un système qui produit des caractères en sortie? Je pense, je m'imagine, un humain, il ne pourrait pas fonctionner comme ça. Alors on se dit, mais il y a quand même un risque assez important qui va nous produire des séquences de caractères qui n'ont aucun sens. Mais par contre, c'est surprenant, ça fonctionne assez bien. Donc l'encodeur, donc, ils ont utilisé la décomposition en des mots, et en sortie, ils ont comparé soit on coupe les mots en sous-unités, ou on travaille directement au niveau des caractères. Et c'était testé sur plusieurs langues, on est parti de l'anglais vers des langues a priori morphologiquement riches, comme l'allemand, le tchèque, le russe et le finlandais, qui est par ailleurs une langue très difficile pour la traduction automatique, et de façon assez surprenante, les décodeurs, donc les modèles génératifs au niveau des caractères, ils fonctionnent mieux que tous les découpages en unité. Oui, ça va aller. Donc, quelques mots encore sur l'utilisation des données non labellisées. Donc, les données monolingues, donc, on en dispose dans des quantités assez importantes, parce que en fait, c'est n'importe quel texte. Et dans le système actuel que j'ai présenté pour l'instant, on ne peut pas les utiliser. Mais d'autre côté, on sait que les décodeurs, en fait, c'est un modèle de langage qui est conditionné sur l'entrée. Donc on peut imaginer, est-ce qu'il y a moyen d'améliorer ce modèle de langage uniquement en utilisant les données monolingues? Donc ça revient, de quelque sorte, dans l'obligation de trouver une initialisation du modèle de langage de sortie avec un embedding de la phrase dont on dispose uniquement la sortie. On n'a pas l'entrée. Donc en fait, si on n'a pas l'entrée, une astuce, donc on va peut-être accélérer un peu, on la produit. Imaginez, vous voulez faire une traduction de l'anglais vers le français, et vous avez beaucoup de textes en français. mais vous savez, vous n'avez pas d'entrée correspondante. Donc l'astuce, maintenant, on construit le système français-anglais, et on prend tous les textes monolingues en français, on produit une traduction automatique de l'anglais, peut-être un petit peu erronée, mais ça suffit pour l'injecter comme pseudo-données parallèles. Donc en fait, le système, c'est l'apprentissage non supervisé parfait dans le sens. Et ça fonctionne drôlement bien, donc on a un gain assez important ici de 3 points. Et c'est surtout parce que c'est la quantité de données qui varie beaucoup. Les données parallèles, c'est toujours limité, alors que les données monolingues, c'est quasiment illimité. Pour conclure, je parle un petit peu de ce qu'on appelle l'apprentissage joint. Donc, on commence à construire des systèmes de traduction neuronaux, en fait, pour toutes les paires de langues, mais en gros, on fait tout séparément. On fait système anglais-français, on fait un autre système anglais-espagnol, peut-être français-anglais, donc tout est fait complètement séparément. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à prendre si on essaie de faire ça ensemble? Donc si vous faites anglais-français et anglais-espagnol, vous avez toujours anglais en entrée. Vous avez toujours un système encodeur qui traite l'anglais. Si on fait les deux ensemble, peut-être on peut faire mieux. Peut-être ils bénéficient mutuellement. Et c'est surtout, ça devrait être intéressant, si vous prenez une paire de langues pour lesquelles vous avez peu de ressources. Vous faites anglais-français, ça, il y a beaucoup de données. Après, vous faites anglais-danois, par exemple. Là, vous n'avez pas beaucoup de corpus parallèle. Mais le fait d'avoir un encodeur anglais, même si c'est pour le danois, peut-être il profite du fait qu'on a beaucoup de données anglais-français. Donc on essaie de faire ça un peu tous ensemble. Donc là, il y a aussi plusieurs travaux dans ce sens-là. Donc là, on distingue différents cas. Donc le premier cas, c'est un encodeur, mais il y a plusieurs décodeurs. Donc il y a une langue qu'on traduit plus ou moins simultanément à plusieurs langues. Donc comment c'était fait, donc ça c'est direct, vous avez un encodeur et plusieurs décodeurs en sortie, et chacun a son mécanisme d'attention particulier. Parce qu'on peut supposer que cet alignement non-binaire il est spécifique à chaque paire de langues. Ici, les langues, donc c'était en français, désolé, j'ai du mal à lire, donc oui, anglais, espagnol, néerlandais, portugais, sauf le néerlandais, sont tous des langues romains, donc probablement l'alignement est relativement proche. Mais c'est quand même spécifique à chaque paire de langues, et ça marchait bien. Donc par rapport au développement des systèmes complètement indépendamment, on a gagné dans la qualité. Parce que tout simplement, l'encodeur ici a bénéficié des données de toutes les paires de langues. Et surtout, ça fonctionne bien pour les langues, ici je pense le néerlandais, pour lesquelles on a moins de données que pour les autres. Parce que finalement, l'encodeur a mieux appris. Après, il y a l'autre cas, on part de plusieurs langues vers une seule. Ici, c'est une étude très particulière. On a supposé qu'on dispose de deux langues en même temps à l'entrée. Donc ici, notamment allemand et français, on veut traduire l'anglais. Donc la question, est-ce que la connaissance d'avoir deux phrases qui veulent dire la même chose dans deux langues différentes, est-ce que ça permet de mieux traduire? C'est peut-être pas un cas très réaliste en pratique, mais c'est quand même intéressant. Donc là, il y avait toute une étude, comment on combine la représentation des deux encodeurs ici, pour avoir une représentation conjointe, ensuite faire la traduction. Et peut-être pas trop surprenant, ça donnait un gain assez important. Alors que finalement, vous n'avez pas une nouvelle information, c'était exactement la même phrase, mais écrite dans deux langues différentes, ce qui permet de le traduire mieux. Et finalement, pour combiner tout ça, on fait plusieurs langues, plusieurs encodeurs, il y a plusieurs encodeurs, décodeurs. Donc ici, il y avait une étude de toutes les combinaisons. Donc un encodeur, il y a plusieurs sorties, mais pas uniquement plusieurs langues, mais aussi différentes tâches. Donc vous avez une phrase source, d'un côté, vous voulez la traduire, vous voulez mettre les catégories grammaticales dessus, et on a aussi, c'est maintenant que les données monolingues arrivent, on a ici regardé est-ce qu'on peut avoir une sorte d'auto-encodeur de séquence en face de l'anglais vers l'anglais. Ou dans l'autre sens, on a l'allemand ici, ou l'anglais vers l'anglais, et vous avez vu ça déjà la dernière fois, cette notion d'encodeur-décodeur, en fait, c'est lié à ce qu'on a fait là avec la description d'image. Parce que là, au lieu d'avoir un texte en entrée, vous avez une image en entrée, vous produisez une séquence en sortie. Donc est-ce que ces deux tâches bénéficient mutuellement? Parce que vous avez chaque fois un réseau génératif qui produit l'anglais. Et finalement, tout ensemble, vous avez l'anglais-allemand vers l'anglais-allemand. Donc si vous avez les deux encodeurs, les deux décodeurs, la tâche de traduction, c'est l'allemand vers l'anglais, mais on peut aussi éventuellement maintenant utiliser données monolingues pour faire allemand vers l'allemand, ce qui améliorait ici l'encodeur, ou faire l'anglais, ben l'anglais, ce qui améliorait les décodeurs. Donc il s'est montré que ça ne marche pas très bien si on fait une sorte d'auto-encodeur, c'est-à-dire la même séquence en entrée qu'en sortie, parce que c'est trop simple pour un réseau de neurones, en fait. Donc on a coupé, pour simuler un peu une sorte de tâche de traduction, on a mis la première partie de la phrase en entrée, et la tâche du réseau était sortie la deuxième. Donc ils avaient reçu de très bons résultats dans différentes configurations. Et finalement, dans une dernière approche, donc ici, j'ai oublié de dire, donc ils n'avaient pas le mécanisme d'attention. Parce que si vous avez toutes ces combinaisons ici, c'est difficile à partager ici au milieu parce que vous avez un mécanisme d'attention spécifique à chaque paire. Donc il y a, il y a des travaux qui ont essayé d'attaquer ces problèmes quand même. Donc faire plusieurs encodeurs, faire plusieurs décodeurs avec un mécanisme d'attention au milieu, mais ils ont voulu que ces mécanismes d'attention soient uniques pour toutes les paires de langues. Ce qui est un peu un défi. Donc, ils ont réussi à la fin, mais sans aller dans les détails, vous voyez que c'est une architecture assez compliquée, avec des flèches dans tous les sens, des petites couches. Et ils m'ont dit qu'ils ont mis 6 mois pour mettre ça au point, mais ça semble fonctionner. Donc, c'est l'heure, donc je vais conclure. Donc, je pense, au cours des exposés, vous avez vu que les word embedding, aujourd'hui, ils sont partout. Donc si vous allez sur une conférence aujourd'hui, aussi bien un réseau de neurones que du traitement de langage, il y a presque la moitié des articles qui parlent des embeddings d'un sens à l'autre. Donc c'est un domaine de recherche qui est très actif et très compétitif. Donc il faut, si on a une idée, il ne faut pas trop traîner, il faut essayer de l'implémenter rapidement, sinon quelqu'un d'autre le fait dans la semaine qui suit. Et j'avais une figure, en fait, si vous prenez les conférences du traitement du langage classique, qui s'appelle ACL ou NLP... En fait, il y a 5 années, il y avait 1 ou 2 articles sur le réseau de neurones, et aujourd'hui, ils commencent presque à faire des sessions spéciales pour le réseau de neurones, donc on peut presque dire que les réseaux de neurones ils envahissent un peu le domaine du traitement de langage. Donc, pour pas mal d'applications, comme le modèle langage, la traduction automatique, la reconnaissance de la parole aussi, donc le réseau de neurones profond, ils obtiennent maintenant des performances qui sont à l'état de l'art, comme le meilleur système classique. Et on peut même dire, pour certains cas, ils ont remplacé l'approche classique, et je pense que ça ne va pas tarder trop que les systèmes classiques, phrase-based, vont aussi être remplacés par un système neuronal aussi bien en recherche que même en production. Quelles sont les questions ouvertes? Donc, évidemment, c'est mon point de vue personnel. Donc, je pense que plus personne ne doute quand les embeddings, c'est une très bonne façon de représenter les mots, mais comment faire avec les phrases? Donc là, la question n'est pas encore vraiment répondue. Est-ce qu'on doit utiliser un grand vecteur, donc condenser toute une phrase d'une longueur peut-être limitée dans un seul vecteur, ou plutôt avoir quelque chose du style basé sur l'attention, où au bout du compte, vous n'avez plus une représentation de la phrase entière, mais vous traitez ça par morceaux. Une autre question, est-ce qu'on doit garder les mots comme unité de base qui est quasiment imposée par nous humains? Pour nous, ça paraît évident, mais alors que pour la machine, c'est peut-être pas. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser des sous-morceaux ou on passe directement au niveau des caractères? Laquelle des deux façons permet de traiter mieux la morphologie? Parce que c'est un des gros problèmes de la plupart des langues. On peut se poser ici une question, est-ce que les LSTM maintenant, c'est le choix ultime, ou est-ce qu'il y a peut-être autre chose? Il y a quelques années, on utilisait le réseau récurrent, donc tout le monde est passé au LSTM. Maintenant, il y a peut-être d'autres techniques comme le memory-based network ou quelque chose comme ça. Donc je pense qu'on ne devrait pas s'arrêter à dire mais le LSTM, c'est établi, il faut rester ouvert. Une question très importante, c'est comment on peut introduire des connaissances un peu sur le monde? Parce que là, on fait des systèmes qui sont très spécifiques à une tâche, et parfois, par la traduction, un traducteur humain, il choisit une traduction parce qu'il sait que ça n'existait pas, ça n'a pas de sens. Et c'est très difficile de sortir ça, ces données. Donc, comment on peut attaquer ça? Et une des grandes questions, donc, est-ce qu'on doit continuer à résoudre des tâches de façon indépendante ou on doit converger quelque chose vers un grand système qui gère plusieurs tâches en même temps, comme l'annotation des images, la traduction automatique, éventuellement la reconnaissance de parole, d'avoir un seul système qui gère tout ça en même temps. Si vous regardez un peu les êtres humains, on apprend à parler, à comprendre la langue, mais a priori, on voit la vision, on fait tous en même temps. Parce que si vous montrez un petit bébé, vous dites, voilà, c'est un chat, il entend, il le voit, Donc, il travaille un peu multimodal. Donc, ça, c'est aussi un grand challenge, un peu de mon point de vue, pour le futur, de passer au multimodal, de gérer plus la modalité en même temps. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions.